C'est une conférence de philosophie, entre guillemets, mais c'est aussi une conférence d'histoire de l'art, une conférence d'esthétique, parce que, comme vous verrez, j'ai une approche de l'art qui est assez généraliste et qui mêle plusieurs points de vue, et donc pas seulement le point de vue de la philosophie, mais aussi celui de l'histoire, celui de la sociologie, etc., etc. Donc je vais traiter mon sujet, hein, je veux dire, comme je suis quelqu'un de discipliné, je vais traiter mon sujet. L'art est-il le reflet de la société? Et la réponse, question-réponse, vous allez le voir tout de suite, c'est oui, l'art est le reflet de la société, mais pas tout le temps, et pas sous tous les aspects. Hein. C'est-à-dire, c'est une réponse un peu trop nuancée, hein, mais il n'est pas tout le temps. Vous verrez qu'il y a des formes d'art qui ne sont pas le reflet de la société. Et en tout cas, même quand l'art est le reflet de la société, il n'est pas sous toutes ses dimensions, ni sous tous ses aspects. Alors je commencerai par une remarque préalable, qui est très importante, mais que les philosophes ont beaucoup de mal à faire. C'est d'admettre que la notion d'art est une notion floue. Ça ne veut pas lui dire qu'elle est informe, hein, ni qu'on peut dire n'importe quoi, mais c'est un concept, c'est ce qu'on appelle un concept flou. C'est un philosophe américain, disciple du philosophe anglo-autrichien Wittgenstein, qui a avancé cette idée de l'art comme concept flou, c'est-à-dire l'art est un concept dont les contours sont changeants, c'est changeant selon les sociétés, c'est changeant selon les formes d'art considérées, et il faut apprendre à se faire à ces variations. Et il est évident qu'il y a par exemple des formes d'art qui sont très liées à la connaissance, par exemple dans l'art de la Renaissance. L'art de la Renaissance est vu comme un art descriptif et qui doit nous représenter les choses telles qu'elles sont quand elles sont correctement vues. Et puis, il y a des formes d'art qui sont beaucoup plus hédonistes et qui se préoccupent très peu de la connaissance. Alors, l'art est un concept flou et il faut faire un certain nombre de distinctions. Ce sera juste des distinctions préliminaires. D'abord, il y a une grande distinction que l'on oublie alors que tout le monde la connaît et tout le monde sait de quoi il s'agit. Une première distinction entre l'art en tant qu'on le fabrique, qu'on le produit, qu'on le pratique, et puis l'art en tant qu'on le reçoit, qu'on l'expérimente et qu'on l'éprouve. C'est une distinction qui date depuis la plus haute antiquité, en tout cas depuis Platon. C'est qu'il y a un art qui consiste à fabriquer, poiesis, faire. De là vient le terme de poésie, hein, aussi curieux que ça puisse paraître. Et puis, il y a un autre aspect qui consiste à éprouver l'art, le ressentir, en faire l'expérience, avoir une sorte de vécu de l'expérience artistique. Et c'est ce qu'on appelle l'aesthésis. Aesthésis, ça veut dire sensation en grec. Et ça c'est le phénomène de recevoir sans ressentir. Et ça a donné, si poiesis a donné le mot poésie, aesthésis a donné le terme esthétique. Et ce qui est intéressant à souligner, si vous poursuivez des études d'histoire de l'art, par exemple, vous le verrez très bien, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas beaucoup parlé d'esthétique. On n'a pas beaucoup parlé de l'expérience ressentie de l'art. On a parlé surtout de l'art en tant que fabrication, parce que c'était une affaire de spécialistes, c'était une affaire aussi de commanditaires, qui c'est qui commandait les œuvres d'art et qui les achetait en quelque sorte, mais que le point de vue du spectateur avait pas beaucoup d'importance. Jusqu'à la Renaissance, y compris jusqu'au XVIIIe siècle, le point de vue de la fabrication, le point de vue de la production de l'art est plus important que le point de vue de l'expérience, de la réception de l'art, le point de vue du spectateur. Le point de vue du spectateur, le point de vue esthétique, se dégage à la fin du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et puis c'est quelque chose que nous connaissons bien. Mais faites vous-même la différence entre votre expérience, par exemple, si vous pratiquez la musique, votre expérience en tant que pratiquant la musique, et votre expérience en tant que consommateur de musique. Il suffit que vous ayez un baladeur pour que vous connaissiez l'expérience de consommateur de musique, l'expérience de la réception. Et si vous faites de la musique, eh bien, vous avez l'expérience de la poiesis, de la production musicale. Première distinction donc fondamentale, parce que je veux dire, selon les sociétés, je dirais que la composante de production ou la composante de réception varie beaucoup. Deuxième distinction, eh bien, il faut voir, et c'est en ce sens que l'art est un concept flou, c'est que l'art a des fonctions extrêmement diverses selon les époques et selon les sociétés. Il a des fonctions religieuses, des fonctions presque sacrées quelquefois. L'art est utilisé dans des cérémonies et il ne doit pas être utilisé en dehors des cérémonies. C'est vrai encore pour pas mal de masques africains, par exemple. Bien évidemment, c'est vrai pour la peinture religieuse en Occident, la peinture de la Renaissance jusqu'au XVIe siècle. La peinture de la Renaissance est une peinture éminemment religieuse, avec des fonctions religieuses, je vous en parlerai. Et puis, il peut avoir des fonctions politiques aussi. L'art peut avoir des fonctions politiques. Et peut avoir des fonctions décoratives aussi. Pensez au rôle de la décoration, par exemple, quand vous regardez dans certaines stations de métro qui sont décorées avec des œuvres d'art ou avec des travaux de design. L'art peut avoir des fonctions de connaissance aussi. Attendez, des fonctions de connaissance, des fonctions de critique. Il y a beaucoup de fonctions différentes dans l'art, et encore une fois, elles ne sont pas toutes également présentes selon les sociétés et selon les époques. Il y a des sociétés où la dimension de connaissance, que j'appellerais la dimension cognitive, est plus importante. Il y a des sociétés où la dimension hédonistique, le plaisir que donne l'expérience artistique, sont plus importantes. Et puis, n'oubliez pas une chose, j'utilise une présentation qui est une présentation visuelle, sauf à la fin quand je vous ferai écouter un peu de musique, mais n'oubliez pas, on l'oublie trop, c'est qu'il y a beaucoup d'arts différents et que ça complique encore le fonctionnement du concept d'art. Il y a beaucoup d'arts différents. Vous avez bien sûr les arts visuels. Dans nos sociétés aujourd'hui, quand on parle d'art, on parle surtout d'art visuel, mais il y a la musique, et Dieu sait si elle existe comme art, que ce soit de la musique élevée, de la musique classique, ou que ce soit de la musique quotidienne, de la musique d'ambiance. Il y a l'architecture, dont on oublie trop qu'elle est véritablement un art extrêmement important. Il y a la littérature, il y a beaucoup de formes d'art. Il y a des formes d'art populaires aussi, des pratiques populaires. Je pense qu'aujourd'hui, le graphe, le tag est une forme d'art aussi, énormément de formes d'art différentes et qui, encore une fois, correspondent à des fonctions différentes, à des usages différents et ont un rapport à la société qui est largement différent. Donc tout ça pour vous expliquer que l'art est un concept flou, mais encore une fois, que ça soit bien clair, c'est pas une raison pour penser qu'on peut dire n'importe quoi sur l'art. C'est pas du tout vrai. Simplement, ça nous demande ce caractère flou de concept d'art nous demande d'être assez nuancé dans nos jugements et surtout de bien connaître de quoi nous parlons. Bien savoir de quoi nous parlons et de pas nous ressortir toujours le même tableau impressionniste, la même symphonie de Beethoven. Il y a beaucoup de formes d'art avec des fonctions extrêmement différentes et des dimensions très différentes. Alors, l'art reflète la société. Je vais prendre des exemples et puis je les commenterai en quelque sorte pour vous montrer, parce qu'encore une fois, reflet de la société, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps ça ne veut pas dire grand chose. Qu'est-ce que c'est qu'un reflet? Ce serait reflet dans un miroir en quelque sorte. Vous avez sûrement entendu parler en cours de littérature de la définition que donnait Stendhal du roman. C'est un miroir qu'on promène le long d'une grande route. Ça c'est une conception du reflet, le sens le plus simple, mais quand on entend reflet, on entend quelque chose de beaucoup plus complexe, nos relations causales avec la société, une relation de représentation de la société. Donc je dirais que le terme reflet lui-même couvre suffisamment de choses pour que ça nous complique encore la vie. Alors je suis désolé parce que l'image là est jaune. Alors ça c'est une chose que j'ai, la plupart des documents sont de moi au gré de mes voyages. Ça c'est une peinture sur bois religieuse du XIIIe siècle que j'ai photographiée au Musée National d'Art de Catalogne, tout simplement pour vous. L'art reflet de la société. Bon, ben, c'est évidemment éminemment une peinture religieuse. Fondamentalement, c'est la vie de je ne sais quel saint avec les épisodes de martyrs autour de. C'est une vierge avec l'enfant, mais autour avec la représentation de quatre martyrs correspondant à quatre saints différents. Bon, ce qui est intéressant là comme fonction, c'est une fonction, la fonction de ce type de tableau, c'est pas une fonction artistique, évidemment, c'est d'abord une fonction d'enseignement, je dirais presque cognitive, une fonction d'enseignement pour des gens qui étaient très largement, qui étaient quasiment tous illettrés. C'est-à-dire que l'art servait à ce moment-là comme fonction à enseigner la parole sacrée. C'est-à-dire à enseigner la légende des saints, à enseigner la croyance religieuse, et ça correspond à un type de société religieuse, un type de fonctionnement de croyance. Pour nous, ensuite, ça prend une valeur esthétique, en quelque sorte, mais au départ, c'est fondamentalement pour enseigner. On utilisait très fréquemment les tableaux religieux pour prêcher. C'est-à-dire que le prédicateur exposait des choses et montrait ensuite, exactement comme je fais. En fait, c'était le tableau était une sorte de PowerPoint rudimentaire et plus artistique que le mien. C'est-à-dire que le prédicateur montrait les scènes correspondant à ce qu'il décrivait et à la leçon morale ou religieuse qu'il présentait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, ça a à voir cette fois-ci avec l'état de l'art, c'est qu'au XIIIe siècle, le type de représentation est une représentation par juxtaposition. C'est-à-dire qu'on juxtapose des épisodes, mais on ne peut pas les figurer ensemble dans une histoire. Il manque une chose très importante qui sera l'invention de la perspective, qui permettra de juxtaposer de mettre en profondeur plusieurs plans et donc de compliquer la narration. Ici, la narration est faite d'épisodes juxtaposés, un petit peu comme dans certaines bandes dessinées ou, je dirais, dans certaines bandes comiques d'illustration dans les journaux. Alors là, on a déjà reflet de la société, en un autre sens. Ça, c'est un très beau tableau qui maintenant est exposé dans des mauvaises conditions. C'est la Madone de... Del Parto, la Madone de l'Enfantement, de Piero della Francesca. Là, il y a déjà une maîtrise de la perspective, et ce tableau, donc on peut représenter une scène plus complexe, on peut la mettre dans une profondeur, mais ça, il faut, disons, avoir l'expérience de l'histoire de l'art pour le savoir. Ce type de représentation correspond à un développement de l'art comme connaissance, comme science, c'est-à-dire que la perspective au départ est vue comme un mode de représentation exact, et la peinture est vue comme une science. D'ailleurs, Piero della Francesca, au XVe siècle, Piero della Francesca écrit des traités d'arithmétique, écrit des traités de perspective, écrit des traités de géométrie, c'est-à-dire que ce type de peinture reflète aussi le démarrage de la connaissance scientifique à la Renaissance italienne. Par ailleurs, ce type de tableau, les historiens de l'art ont montré, était fait pour la dévotion, fonction et notamment, par exemple, pour ceux qui peuvent le voir, parce que moi je le vois très bien sur mon image, mais vous le voyez beaucoup moins bien, le visage de la Vierge est un visage extrêmement impassible, très concentré, très recueilli. Quand on voit ça d'un point de vue simplement esthétique, on a tendance à y voir la qualité, je dirais, de recueillement de la peinture de Piero della Francesca. Mais du point de vue de l'histoire de la peinture et de l'histoire des pratiques religieuses, les historiens ont établi que les visages étaient inexpressifs pour que le fidèle, le croyant, quand il priait, puisse projeter sur la figure inexpressive l'image d'un proche, de quelqu'un qu'il connaissait, de manière à rendre sa prière plus concrète et plus intense. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dans ce tableau, quand je dis reflet de la société, mais expression de la société, traduction de ce qui se passe dans la société, mais des choses joliment complexes qui sont présentes là. Deuxième exercice de mise en profondeur. Alors là, ça se complique énormément. C'est un tableau des vertus, des vices. J'ai photographié cela, je crois, à Kassel, en Allemagne, dans le musée de Kassel. Là, c'est une représentation de la moralité, du parcours, c'est un fragment, hein, bien sûr, du parcours humain dans l'existence, des risques de tomber sur l'infortune, sur la prospérité. C'est un récit, une narration complexe que soutient la capacité de représentation de l'époque, une narration des possibilités d'itinéraire, en quelque sorte, du croyant ou de l'homme à travers l'aventure humaine. Bon, quelquefois, reflet de la société, ça aura un sens beaucoup plus différent et que vous aurez du mal à comprendre dans le sens où nous l'avons vu jusqu'ici. Ça, ce que je vous ai montré, je l'ai photographié, je crois, il y a 2 ans à la Foire internationale d'art contemporain de Paris, à la FIAC. C'est un tableau aborigène australien. La dimension, ça doit être à peu près, je dirais, 1 mètre par 1,50 m, 1,60 m, hein, 1 mètre de haut par 1,50 m, 1,50 m de large. Alors là, j'ai quelques explications sur la relation, et vous allez voir, encore une fois, c'est très facile à comprendre, mais c'est assez complexe, quelques explications sur le rapport de ce tableau à la société dans laquelle il est produit et à notre propre perception. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les aborigènes australiens ont toujours, les premiers habitants de l'Australie, qui ont été refoulés, mis dans des réserves par les colonisateurs anglais d'abord, et puis ensuite les vagues d'immigrants qui sont arrivés en Australie, les aborigènes australiens avaient une pratique d'un art fondamentalement rituel. Un art rituel lié à leur pratique religieuse. Je ne sais pas si c'était religion, c'était sûrement pas des religions au sens de nos religions, à nous, mais à leur pratique religieuse et à leur pratique identitaire. C'est-à-dire que ils produisaient des œuvres qui étaient liées au récit de leurs origines tribales et de leur origine ethnique. Simplement, ces œuvres n'étaient pas du tout des peintures. Ces œuvres étaient faites sur le sable, sur des rochers, et elles étaient faites avec des pigments. Et c'était des œuvres qui avaient, je dirais, une durée extrêmement momentanée, c'est-à-dire elles existaient pendant le rituel, et ensuite elles étaient effacées par le vent ou elles étaient abandonnées. Donc c'est ce rock painting ou sand painting, c'est très connu depuis la fin du 19e siècle, sauf que à la fin du 19e siècle, les premiers spécialistes d'ethnologie australienne n'arrivaient pas à voir ces objets, c'était même pas des objets, n'arrivaient pas à voir ces pratiques du tout comme de l'art. Ils n'arrivaient même pas à les voir parce qu'ils étaient tellement imbibés de l'idée que l'art ce sont des objets d'art qu'ils n'arrivaient pas à voir ces pratiques rituelles momentanées. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu l'aventure de l'art du XXe siècle pour voir ces objets temporaires, ces objets qui étaient plutôt des performances en quelque sorte, ou des célébrations religieuses plutôt que des objets destinés à être conservés. Mais il se trouve que les aborigènes australiens sont pour la plupart regroupés dans des réserves, maintenant sous la protection du gouvernement australien. Ils bénéficient d'une assistance sociale et d'une assistance publique importante, et du coup ils font comme font tous les groupes humains qui sont dans ces situations, ils sont dans le désœuvrement, l'alcoolisme et je dirais sans aucune perspective. Il s'est trouvé qu'il y a 20 ans à peu près, des spécialistes des affaires aborigènes ont suggéré aux aborigènes de transférer leurs motifs rituels sur des toiles avec des couleurs acryliques. Et ça a donné, alors c'est là où c'est tout à fait intéressant, parce que c'est à la fois un reflet de l'ancienne culture aborigène et des formes artistiques aborigènes, mais en même temps c'est un objet complètement nouveau. Ça a donné la naissance de toute une école de peinture aborigène contemporaine australienne, qui est très cotée auprès des collectionneurs, et qui est la transposition sur toile de ces récits mythiques avec les moyens de l'acrylique. Alors évidemment, ce n'est plus des pigments purs, ce sont des pigments acryliques, ce n'est plus des œuvres qui sont destinées à disparaître sous le vent, Elles sont destinées au commerce. En un certain sens, ça a un côté art pour touristes. Hein. Au départ, ça avait un côté art pour touristes. Et puis, à l'intérieur de ce nouveau système de production, eh bien, il se trouve qu'il y a des artistes plus importants qui sont apparus, d'autres qui sont plus ordinaires, et que eh bien, les critères habituels du monde de l'art se sont remis à jouer. Donc vous voyez en quoi, quand je vous raconte l'histoire de peinture comme ça, vous avez toute une histoire sociale derrière, tout un phénomène aussi de commande sociale, parce qu'on a proposé aux indigènes, aux aborigènes de faire ça pour s'occuper au départ, pour valoriser leur patrimoine, pour occuper leur temps, pour retrouver leur identité, et puis finalement aussi pour faire de l'argent. Alors, très souvent, je dirais, quand vous étudiez l'art en rapport avec la société, ben vous tombez sur, ce que j'ai commencé à vous expliquer, sur des références multiples. Ça renvoie à la société de manière extrêmement complexe, et c'est pas juste un reflet, encore une fois. Il y a certainement un lien, ça ne tombe pas du ciel, ça ne peut pas être fait dans une autre société que celle où ça a été fait, mais le rapport qui est entretenu avec la société est extrêmement complexe. Là, c'est je ne me souviens plus du tout quel est le peintre. J'ai photographié ça en Italie il y a 6-7 mois à peu près. Reflet de la société. La dévotion à la Vierge, reflet de la société, tableau du 15e siècle, Renaissance italienne, reflet de la société, la dévotion à la Vierge. Reflet de la société, la richesse des matériaux. Et là, on tombe sur la question de la commande. Qui c'est qui commande les œuvres? Et on voit très bien sur les œuvres, si la commande a été passée par une confrérie très riche, ou si elle a été passée par des gens moins riches ou d'une petite ville moins puissante. Parce que dans les contrats qui stipulaient les conditions de réalisation de ces œuvres, tout était défini. Et on définissait bien évidemment la taille, on définissait le sujet, on définissait les matériaux qui seraient utilisés, il y aurait tant de feuilles d'or, le manteau de la Vierge serait peint avec du lapis lazuli, c'est-à-dire du bleu, un bleu fait avec des pierres semi-précieuses écrasées, ce qui était tout à fait différent des autres bleus. On spécifiait que, et comme c'était une industrie, tout ça c'était une industrie, c'est pas des artistes romantiques qui faisaient ça dans une chambrette, hein, c'était des gros ateliers de production, on spécifiait très souvent aussi quelle devait être la part du maître d'atelier et quelle devait être la part de ses assistants. C'est-à-dire que si c'était un tableau commandé entièrement au maître, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait très peu de travail d'assistant, que les figures soient réalisées par le maître, etc. Et on voit très très bien, quand on a une habitude de cet art, on voit très bien quelles ont été les parties qui ont été faites par le maître et les parties qui ont été faites par les assistants. Il y avait derrière une industrie, une commande sociale, des problèmes de manutention, des problèmes de transport, des problèmes de commercialisation. Actuellement, vous avez au Louvre, si vous avez à Louvre une exposition Mantegna. Si vous regardez bien les dessins qui sont exposés, vous tombez à un moment sur un carnet de dessins de Mantegna qui visiblement n'était pas un carnet de dessins tout court, c'était un recueil de modèles qu'il proposait à ses acheteurs, aux commanditaires potentiels. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez comme bataille, qu'est-ce que vous voulez comme martyr, qu'est-ce que vous voulez comme saint, et dans quelles attitudes les voulez-vous? Vous avez derrière des tableaux comme ça, je dirais, tout un arrière-plan social qui exprime la commandite, les causes, les intentions que l'on avait en commandant cela, montrer par exemple qu'on était une confrérie plus importante que les gens de la paroisse d'à côté, qu'on avait plus d'argent ou qu'on avait plus de dévotion, etc., etc. Et puis bien évidemment, ne pas oublier, dans un tableau comme ça, parce qu'il y en a des milliers de tableaux comme ça, ils sont plus ou moins réussis, puisqu'encore une fois c'était une industrie, vous avez une fonction artistique. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous avez des ateliers qui sont en compétition, vous avez des peintres qui sont plus ou moins connus et dont certains sont très connus, et donc ils sont en rivalité. Vous avez une rivalité d'artistes entre eux, et qui est, pour l'historien de l'art, eh bien, on verra dans quelle mesure il a essayé de dégager des influences de ses maîtres, dans quelle mesure il entre en rivalité avec les peintres d'une ville voisine, etc., etc. Encore une fois, si certains d'entre vous avaient l'occasion, elle est un peu abstraite, parce qu'elle demande vraiment une attention, mais dans l'exposition Mantegna, on voit très bien tout ça. On voit très bien aussi comment, dans le style de Mantegna, a beaucoup pesé le fait qu'il avait des commanditaires princiers qui lui demandaient certaines choses, qui lui demandaient certains styles aussi à la fin de sa vie, et qu'il ne pouvait pas faire absolument ce qu'il voulait. Quelquefois, les artistes font ce qu'ils veulent, mais que lui était très dépendant de la commande, avait réussi des choses merveilleuses, et on voit qu'à la fin de sa vie, c'est la pression de ses commanditaires à la cour des Gonzague est très forte et peut-être un peu dommageable. Je change complètement de reflet de la société, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, l'art, ce n'est pas seulement les tableaux, les arts visuels. Là, ce que je vous montre, c'est l'intérieur d'une boutique. C'est la boutique Prada de Tokyo, le magasin Prada à Tokyo, qui a été fait par les architectes Herzog et Demeron. Alors là, référence de ce type, le design aussi, c'est de l'art, hein, encore une fois, et aujourd'hui, Dieu sait si le design est important, le design, c'est de l'art, ça, c'est de l'architecture intérieure. Eh bien, vous avez comme explicitation de cette... Vous avez une sorte de grand promenoir en plastique. Alors, reflet de la société, là, oui. D'abord, vous avez reflet technologique, c'est-à-dire que vous avez ce type de, notamment de promenoir en plastique, cette possibilité de d'occuper l'espace avec cette énorme spirale sur laquelle je pense on peut se déplacer. C'est lié à la société, à un état des technologies. À certains moments, on peut faire certaines choses, à d'autres moments, on ne peut pas les faire du tout. Vous verrez sur l'exemple musical que je donnerai à la fin que c'est très évident. L'art reflète l'état de la technologie de son temps. Alors, c'est vrai que, par exemple, je connais des gens, tout le monde connaît des gens qui, quand ils prennent leur retraite, s'en vont, ont une vocation refoulée de peintre et puis vont aller chez Sennelier et acheter des tubes de couleur et se mettre à peindre à l'huile. Mais ça reflète, je dirais, l'image qu'on a d'une peinture impressionniste ou d'une peinture du 19e siècle. Les moyens contemporains pour peindre, c'est l'acrylique, ce sont les lacs, ce sont les matériaux industriels, et de la même manière, les moyens qu'utilisent les artistes en design, ce sont les moyens contemporains, les capacités de façonnage, les capacités de dessin assisté par ordinateur, même quelquefois les capacités de production assistée par ordinateur, tout ça, ça se voit. Bon. Référence aussi sociale de cette œuvre, j'appelle cet environnement une œuvre, eh bien évidemment c'est décoration, l'art comme manière d'embellir le monde et en même temps de faire du commerce. C'est un magasin Prada, c'est pas n'importe quel magasin, c'est lié à une certaine conception du marketing, à une certaine conception de l'expérience qu'on doit faire dans ces boutiques, qui est une expérience, et c'est lié aussi à une conception hédoniste, le type de plaisir que l'on doit avoir dans l'expérience commerciale ou dans l'expérience d'achat de luxe, d'une boutique de luxe. Alors, je complique encore, si vous voulez, pour l'art reflet de la société. Cette fois-ci, c'est un tableau de Greuze des années 1760, un tableau de Greuze au XVIIIe siècle. C'est le père mourant. Eh bien là, vous avez reflet de la société, vous avez une scène de genre. Au XVIIIe siècle, les codifications des activités en peinture sont très strictes. Vous avez les natures mortes, vous avez le portrait, vous avez les scènes de genre, vous avez les scènes dramatiques, vous avez les scènes de mythologie. Bon, ben là, vous avez une scène de genre, hein, une scène de familiale. Deuxième relation, édification morale, leçon, hein, le père mourant donnant sa bénédiction aux enfants, toutes les générations étant présentes, la continuité de la tradition étant assurée, la bienveillance des sentiments étant évidente, etc. Et puis, troisième référence dans une peinture comme ça, eh bien, ça va absolument de pair avec le sentimentalisme de l'époque, le sentimentalisme à la Jean-Jacques Rousseau, le sentimentalisme comme on a dans les romans de Richardson, de Clarisse Harlow, la fin du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle est très sentimental, c'est un pré-romantisme. On aime beaucoup exprimer de manière théâtrale les sentiments, ouvrir son cœur, montrer sa bienveillance, sa sympathie, sa peine, etc. Vous avez tout ça dans ce genre de peinture. Cette peinture est fondamentalement de son temps. Hein, c'est pas du tout une peinture qui anticipe quelque chose. C'est pas du tout une peinture passéiste. C'est réellement une peinture de son époque. Alors, après ces exemples, je rassemble un certain nombre de choses. La création artistique, elle est déterminée socialement. Ben, j'ai dit oui, mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire déterminer? Est-ce que c'est une détermination mécanique? Je crois que c'est plus compliqué que ça. Une détermination mécanique, il y a eu quelquefois des thèses dans l'esthétique marxiste, il y a une 80 ans à peu près, 70-80 ans, dans les années 30, disant que les bourgeois ne pouvaient faire que de la peinture de bourgeois et qu'il faudrait une peinture de prolétarienne faite par des prolétaires. Je crois que là, à l'évidence, si vous voulez, tout a été, c'est beaucoup trop mécanique et c'est extrêmement peu crédible. Cela dit, c'est crédible en un autre sens. C'est vrai que nous n'allons pas faire de la peinture d'aborigène. Nous ne pouvons pas nous mettre dans la peau d'un aborigène pour faire de la peinture aborigène. Mais en tout cas, détermination mécanique, sûrement exclue, et en tout cas exclue, je dirais, pour les formes d'art intéressantes. Parce que vous avez... je me suis beaucoup intéressé à ça. Je n'ai pas d'images à vous présenter parce qu'elles sont encore sur diapositive. Mais vous avez des cas où la production artistique est déterminée mécaniquement. Mais là, ça passe par l'époque, ça passe par un relais très bien, très précis. C'est la commande. Et notamment, je me suis beaucoup intéressé à la décoration des hôtels. Parce que quand vous avez des hôtels avec 300 chambres, il faut, quand vous les ouvrez votre hôtel, il faut acheter... 600, au moins 600 lithographies, deux par chambre. Il faut avoir des œuvres d'art dans les couloirs, avoir des œuvres dans les... Il faut mettre quelque chose au mur, quoi. Il faut mettre de la déco. Hein. Aujourd'hui, on met plutôt de la déco maintenant. Mais il y a une dizaine d'années ou 20 ans, on mettait de l'art. Alors, je me suis intéressé à ça parce que... j'ai remonté en quelque sorte la filière et très souvent, ben, on commande 600 peintures à un petit groupe de jeunes artistes, en général des élèves des écoles des beaux-arts. On leur spécifie ce qu'il faut faire et puis ils fabriquent ça à la chaîne. Hein. C'est absolument automatique. Un de mes amis qui a participé à ça m'a dit on nous avait commandé 300 marines et on les faisait à plat. Hein, et il y en avait un qui faisait le bateau, il y en avait un autre qui faisait les voiles, un troisième qui faisait ça, un peu comme dans un atelier de la Renaissance. Mais là, vous avez une commande qui spécifie mécaniquement ce que vous devez obtenir. Mais je dirais que ce n'est pas la forme d'art la plus intéressante. Je dirais qu'il y a des déterminations qui sont relatives, qui sont très complexes. J'ai essayé de vous les en donner des idées. Et je dirais qu'il faudrait complexifier la notion qui est derrière la notion de reflet. C'est-à-dire l'art peut être l'expression d'une époque, il peut être une idéologie. Il peut tout simplement dépendre mécaniquement de la commande sociale. Mais à ce moment-là, il n'est pas forcément reflet. Il est simplement ce qui a été commandé. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder la question. Alors je vous donne... J'ai donné quelques exemples particulièrement. C'est quoi ça? Ça, c'est une peinture vraiment terrible. C'est une peinture d'un artiste français qui n'est pas mort il y a très longtemps, qui s'appelait Boris Stasinski, qui avait été déporté à Buchenwald. Et c'est le crématoire, la salle du crématoire à Buchenwald. Alors c'est quoi ça? Est-ce que c'est un reflet de la situation? Non, c'était sûrement pas comme ça. Est-ce que c'est une image artistique? Non, c'est pas une image artistique. Est-ce que c'est une dénonciation? Oui, en partie c'est une dénonciation. C'est en même temps un petit peu tout ça. C'est la version que Stasinski nous donne de ce cauchemar, de ce cauchemar, comme on peut le trouver chez Zoran Muzik ou chez quelques autres artistes qui ont été dans des camps de concentration. Un autre exemple, art reflet de l'époque. Alors ça, si vous allez voir, c'est quatre images. Il y en a trois qui correspondent à des œuvres de 1988 d'un artiste d'origine polonaise, mais qui est aux États-Unis actuellement, et Christophe Wodiszko. Christophe Wodiszko a au départ une formation de designer, fabriquait de, des objets industriels, choses comme ça. Les années 80 voient se multiplier les sans-abri, homeless people, aux États-Unis. Et Vodichko, à la fois par provocation, engagement artistique et engagement social, décide de fabriquer un véhicule pour sans-abri. En disant, parce qu'il est inspiré par ce que vous avez peut-être vu, ces sans-abri qui prennent des chariots de supermarché pour y mettre leurs propriétés, les aménagent un petit peu, et puis s'en servent comme base de survie. Et donc Vodichko, qui est un très bon designer, qui a le sens de la fonctionnalité, dit « je vais faire des véhicules pour les gens qui sont condamnés à vivre dans la rue ». Alors vous avez en bas le projet du designer, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui peuvent s'ouvrir, vous pouvez dormir dedans, vous pouvez vous laver, vous pouvez y déféquer, hein, vous pouvez y crotter. Vous pouvez y stocker vos hardes, etc. Il a fait trois objets comme ça. Il y en a un qui est au Centre Pompidou, dans le musée d'art moderne. C'est une sacrée provocation. Il y en a un autre, je ne sais pas où il est. Et un troisième qui a été volé par un SDF. Et qui a dû sûrement trouver à s'en servir. Bon. Là, il est évident que, vous me direz, c'est pas de l'art. Si, si, c'est de l'art, parce que de toute manière, ça peut pas être tellement autre chose, puisque c'est pas un objet industriel commercial standard, c'était pas un prototype irréalisable, c'est une sorte de provocation artistique, critique, et en même temps, très dans l'esprit de l'art du XXe siècle, ou qui se sent capable de transformer un peu n'importe quoi en art. Mais, regardez l'image qui est en haut à droite. Je l'ai prise, c'est les Don Quichotte, les tantes Quechua des Don Quichotte. Ça, c'est de l'action sociale, de l'action politique, mais en même temps, il est évident que dans l'action des Don Quichotte, il y avait une dimension esthétique fondamentale. D'abord, toutes les tantes étaient rouges, toutes du même format, toutes bien alignées. Il y avait un geste artistique pour le mettre en scène. Et c'est aussi le reflet de notre époque. Alors je dirais que c'est le reflet de notre époque, pas seulement de la crise sociale de l'époque, c'est aussi le reflet de l'esthétique de notre époque, de l'esthétique de la déco. Hein. Les Don Quichotte, c'est aussi de l'esthétisme, d'une certaine manière. C'est de l'action humanitaire, mais c'est de l'esthétisme, et l'utilisation de l'esthétisme, ça j'en ai parlé dans un de mes derniers livres, l'utilisation de l'esthétisme dans le fonctionnement social quotidien. Alors, ensuite, vous pourrez toujours, là j'ai pris quelques exemples extrêmement, reflet d'une société, on peut montrer le chaos, si on considère que cette société est chaotique, par exemple, on peut montrer le chaos. L'image en haut à gauche, c'est une image d'un anglais qui s'appelle Jason Rhodes, d'un anglo-américain Jason Rhodes, qui est une installation qui fait 10 mètres de profondeur avec plein, un bazar pas possible, un pandémonium de choses, un chaos pas possible. C'est pas une œuvre, je dirais, harmonieuse, mais c'est la présentation d'un monde qui est fait d'un désordre pas possible. Regardez une rue, regardez tout simplement un lieu urbain, c'est un désordre pas possible de signes visuels de toutes sortes. Je vous ai montré ensuite, mais je passe vite, une installation lumineuse, un monde qui est chaotique, qui est liquide, qui est impalpable, qui est impossible à toucher. Ensuite, en bas à gauche, c'est Kusama, c'est une installation lumineuse, un peu comme vous pouvez voir au moment de Noël, et en bas, c'est un morceau de vidéo de Bill Viola. Bon, miroir de la société, là, carrément, c'est une peinture du Congolais Chéri Samba, qui se représente en tant qu'artiste congolais arrivé parmi les autres membres du Panthéon, donc Kifering, Magritte, etc., etc. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'autoportrait sous la forme contemporaine. Il faut regarder les petites images derrière. Vous y verrez des peintures. Il y a un Miro, il y a un Kifering, il y a un Magritte, etc., etc. Alors, je veux avancer parce que, je veux dire, j'ai trop d'exemples, mais le goût est-il le reflet de la société? Oui, mais de quelle société? Je crois que la question qu'il fallait se poser aussi depuis le début, mais je l'ai abordé indirectement, c'est qu'est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la société globale? Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est que la société globale? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est le style de l'époque? Est-ce que c'est la classe dirigeante ou la classe dominante, on dirait? Est-ce que c'est le monde de l'art? Parce que c'est important, je veux dire, beaucoup de décisions sont prises par le monde de l'art lui-même, par les artistes entre eux-mêmes, par les gens des galeries, par les collectionneurs. D'une certaine manière, l'art reflète ce monde de l'art avant de refléter l'art de la société globale. Alors, la question sur laquelle on peut s'interroger, et vous, comme moi, hein, c'est quels sont les mécanismes de formation et de transmission du goût? Eh bien, il y en a beaucoup. Il y a la mode. La mode, je crois que c'est très important. Ce qui est à la mode, ce qui est dans l'air du temps. Il y a les transmissions familiales et éducatives. Ce qu'on vous apprend, ce que vous avez pris l'habitude de voir comme art et qui vous semble l'art de votre temps. Il y a les institutions académiques. Il y a le milieu artistique. Je donne quelques exemples très rapidement. La mode. La mode, ça, c'est un... c'est Yves Saint Laurent. Hein, là, c'est dans les années 60, lorsqu'il s'est mis à faire des séries de robes qui pique Mondrian, en reprenant les thèmes de Mondrian. Mondrian a connu une sorte de retour. Mondrian, qui était un peintre des années 1910-1930, Mondrian a connu un retour à travers la mode et à travers notamment Yves Saint Laurent. Mais c'était aussi l'époque de l'art cinétique, de l'op art, des arts violemment visuels et géométriques. Et c'est une détermination. Vous avez la transmission sociale et familiale. Bon, ben, ce à quoi on est habitué, ce qui a formé notre regard. Là, j'ai pris une peinture, je l'ai prise au musée de Rouen, je ne sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs, parce que c'est une peinture de la Côte d'Azur par Monet. Mais Monet, l'impressionnisme, voilà, ça c'est fait partie de notre patrimoine, c'est l'idée que nous nous faisons de la peinture, que nous nous faisions jusqu'à un certain temps, parce que les choses sont heureusement en train de changer. Vous avez la transmission académique. Ça, c'est une peinture que j'ai photographiée au musée de Rouen. C'est une peinture, une grande peinture, représentant le salon, c'est-à-dire le salon annuel où les peintres exposent leur production de l'année, et grande fête mondaine, lieu de la peinture pompier, lieu du réalisme, lieu d'une certaine aussi légèreté de la vie et de plaisir de la vie sociale. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a toujours les normes de la vie artiste, du milieu artistique. Parce que quand vous voyez ce Matisse des années 1910, la fenêtre à Tahiti, je dirais ça reflète pas du tout l'époque. Ça reflète pas du tout l'époque. Ça reflète en revanche les préoccupations du milieu artistique de l'époque, des questions très formelles sur la manière de ramener le tableau à la planéité, d'en finir avec l'illusionnisme justement de ce genre de peinture académique, de se retrouver avec une peinture purement peinture, avec des couleurs qui soient purement couleurs, c'est juste après le fauvisme. Et là, c'est aussi le reflet de la société, mais c'est le reflet d'une micro-société, c'est le reflet de la société d'avant-garde, qui va complètement bouleverser l'art du XXe siècle. Et alors, je terminerai, avant de passer à mon exemple musical, je terminerai très rapidement sur le fait que parfois l'art n'est pas reflet, mais est anticipation de quelque chose qui va se présenter. On va voir arriver des choses qui vont ressembler à ça. Et l'art a cette sorte de pouvoir de prémonition qui fait qu'il va refléter un monde qui n'existe pas encore. Alors, critique sociale, là, je vous montre un tableau d'un artiste qui a été bien méconnu, Fougeron, qui était un artiste du Parti communiste français. C'est les Parisiennes au marché, c'est-à-dire 1948, quand il y a l'après-guerre, la suite de la crise, le rationnement, la pauvreté. Critique sociale. Utopie de la cité idéale, c'est une peinture de Piero della Francesca au XVe siècle. Une architecture d'une cité idéale, mais il a existé ensuite, après cela, il a existé des villes de ce genre, construites selon le modèle de la cité idéale. Le peintre le préfigure en quelque sorte cette cité qui n'existe pas. Il y a un petit village d'où était issu un pape de la Renaissance qui s'appelle Pienza, qui a été construit. Alors c'est très drôle parce qu'au milieu du village, vous avez une place à peu près comme ça, qui a été construite par le pape pour réaliser la cité idéale. Et puis autour, ben, c'est un village de Toscane, normal, mais c'est une réalisation des cités idéales. Vous avez, ça c'est un tableau de Fernand Léger qui doit être des années 1917-1918, reflet de l'époque, bien sûr, la guerre, la mécanisation, l'industrialisation de toutes choses, le caractère mécanique de la vie. Actuellement, vous avez une exposition sur le futurisme à Paris où vous verrez un tableau de ce genre de Fernand Léger. Mais en même temps, c'est une projection largement anticipée d'un monde mécanisé, d'un monde de forme aussi, de forme tubulaire, d'un monde... C'est aussi du cubisme ou du cubo-futurisme, on peut l'appeler comme ça. Alors, je donne juste en passant, vous avez toute la science-fiction, pensez-y, l'art reflet de la société. Qu'est-ce que c'est que la science-fiction ? C'est pas évident que ça soit c'est le reflet d'un monde qui n'existe pas encore. Ça, je vous ai pris des images tirées de Blade Runner, de Ridley Scott, tirées du roman de Philippe K. Le film tiré du roman de Philippe K. Dick. C'est la ville qui est décrite dans Blade Runner. C'est la ville polluée, une ville qui est habitée par des gens qui n'ont pas eu encore la possibilité de partir sur une autre planète, des laissés pour compte encore de nos sociétés, pollués dans la pénombre, dans la pollution, dans la violence, reflet d'un monde, mais d'un monde qui est anticipé. Bon, je passe sur ça. Et je termine sur cette image, et après je vous passe juste ma musique, ça sera rapide. Cette image, ça c'est Stellark. C'est un artiste australien, très intéressant, qui expérimente, lui, toutes les formes de construction et de pratique d'un homme totalement métamorphosé. Donc là, vous voyez, il a inventé une machine qui démultiplie les capacités humaines de mouvement. Il a fait des choses bien pires hein, aussi. C'est un homme très radical et très intelligent. Il s'est fait greffer une oreille sur le bras parce qu'il dit au fond le corps humain n'est pas destiné à durer. Le corps n'a pas de nécessité. Nous pouvons faire de notre corps ce que nous voulons. Alors bien évidemment, c'est une anticipation. Mais c'est une idée que je l'ai entendu dire, le corps aujourd'hui est obsolète et en plus il est vide. Le corps est obsolète, il est démodé et en plus il est vide. Et tout son travail consiste à anticiper un nouveau corps avec des prothèses, avec des démultiplications possibles ou des organes nouveaux. Voilà, alors je vous passe pour finir juste deux morceaux de musique, hein. Deux morceaux de musique, parce que je crois que ça peut vous... Mais très court, hein, très court. Donc soyez attentifs, si vous voulez, ce que ça va vous surprendre un peu. Et je les commenterai très brièvement juste après, mais très brièvement, hein, rassurez-vous. Écoutez, hein, c'est la musique, ça. Non, faites l'effort de vous concentrer un petit peu quand même. Bon, on arrête pour ça. Ça suffit. Ça dure 46 minutes. Hein. Alors, non, mais ne riez pas. Ne riez pas et essayez de me donner encore 5 minutes. Donnez-moi juste 5 minutes d'attention là-dessus. C'est une pièce. Je vous ai fait écouter un petit morceau d'une pièce d'un musicien français qui est toujours vivant, qui s'appelle Pierre Henry. Et qui, à mon avis, pour vous qui vous intéressez, j'espère, à la musique techno, est vraiment le chaînon manquant entre la musique d'avant-garde classique et puis la musique techno. Pierre Henry, ce que je vous ai entendu, vous comprendrez tout. C'est un reflet de la société, indirectement. Ça s'appelle « Variation pour une porte et un soupir ». Vous avez entendu la porte. Hein, « Variation pour une porte et un soupir », c'est de 1963. Ça dure 46 minutes. C'est les variations d'un soupir. On entend un soupir et d'une porte. Pierre Henry, qui a une formation de musicien classique, a utilisé toutes les possibilités de manipulation sonore avec des instruments qui à l'époque étaient très rudimentaires. Il n'y avait pas de table pour DJ, il n'y avait pas de table de mixage. Il a réuni un pandémonium pas possible de choses dans sa maison. Il a plus de 80 ans, il donne des concerts dans sa maison à tous les étages, avec tous les magnétos, tous les amplis, tous les trucs qu'il a pu utiliser, et il a fabriqué du matériau sonore. Ça, c'est une... Donc, reflet de son époque, tout simplement, je veux dire, la possibilité technique d'utiliser ça. Et maintenant, deuxième morceau, toujours Pierre-Henry, mais ça, je pense que peut-être vous l'avez déjà entendu. Je vous frustre de la suite. J'ai plus de micro là. Voilà, ça revient ou pas? J'ai terminé, mais je veux dire encore un mot. Encore un mot. Là, j'ai toujours pas de micro. Est-ce que là, j'en aurai plus? Est-ce que là, il y en a? Non, non. Ouais, si, ça revient un peu. Oui, alors, cette deuxième pièce, elle est de 1967-68. Elle a été commandée par quelqu'un dont vous avez entendu parler, c'était Maurice Béjart. Et c'est le psyché rock de la Messe pour le temps présent, qui est un des grands ballets de Maurice Béjart. Et vous voyez très bien comment Pierre-Henry, qui est au départ un musicien d'avant-garde, se glisse dans la culture musicale de son époque, la culture... rock, hein, rock et ensuite pop, et intègre complètement les recherches d'avant-garde dans une musique qui devient une musique très largement accessible. Il n'a pas uniquement fait ça, puisqu'ensuite il est revenu, on peut encore entendre des concerts de Pierre-Henry, il est revenu au matériau musical brut, mais voilà un petit peu aussi en quel sens, même la musique, mais beaucoup de formes d'art sont liés à leur époque, reflet de leur temps. Après Pierre-Henry, si vous vous intéressez un peu à la musique techno, vous aurez la reprise par les Allemands de Kraftwerk, une musique très très technologique, et puis qui ensuite, ça nous mène directement à la techno contemporaine, à la techno hyper minimale, genre Ibiza Sound, des choses comme ça. Voilà.